Oui, je suis très reconnaissant d'être parmi vous ce matin à partager un petit message sur la livre de Marc. Une seconde. Qui aime chercher le trésor? On a un. Oh, deux, trois. Oh, nice. OK. Je vais parler à vous. Non. Chasse au trésor. Est-ce que ça, c'est comment on dit en français? Chasse au trésor. Chasse au trésor. J'aime ça. J'aime aussi le chasse. Donc. OK. Mais non, je dis ça parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on chasse le trésor dans les Écritures. On va parler un peu de ça. Le titre du message, c'est le vrai sabbat. J'espère que ça va être assez grand aujourd'hui. Mais... OK. Si j'oublie de changer les diapos, dis-le-moi parce que je dois changer ici et là. Donc, je vais changer ici puis oublier que ça doit être changé là. Donc, juste crier « Hey, Kai, on ne voit pas. » OK, donc, je viens juste d'arriver, mais je vais donner place à ma belle-femme pour venir faire la lecture aujourd'hui, juste pour que ce n'est pas juste moi que vous entendez aujourd'hui, mais... Mais oui, c'est un passage un peu long aujourd'hui, mais il y a raison pour ça. Donc, sois patient, on va lire en complet Marc 2, 1 jusqu'à 3, verset 6. Il y a cinq petites parties là, ça va être sur l'écran, mais j'espère que c'est assez grand. Mais vous pouvez aussi juste entendre les mots de l'écriture. OK, merci.
OK, donc lisons ensemble, c'est Marc 2. Ça va? OK, c'est un peu petit, mais... Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonça la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amena un paralysé porté par quatre d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus, à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et ils louaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi !» Il se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas à la maison de Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs étaient à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Et les spécialistes des Écritures, qui étaient du groupe des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts. Il disait à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Un jour, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Des gens viennent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne le font pas? » Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, le vin fera éclater les outres. Le vin sera perdu et les outres aussi. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Chemin faisant, les disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait dans le besoin parce que lui-même et ses compagnons avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On épiait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car on voulait une raison de l'accuser. Jésus dit à celui dont la main était paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Qu'est-il permis le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie d'un être humain ou de le tuer? » Mais eux se taisent. Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il a dit à l'homme, « Tends ta main. » Et il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des partisans d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. Amen.
OK. Gloire à Dieu. Moi et Zacha, on fait une école biblique où on devait... Mais qu'est-ce qui se passe? Une minute, je vais chercher mes notes. Oh, non, voilà. On a fait une école biblique où on devait lire comme tout un livre de Bible en un shot, juste à voix haute. Ça prenait comme une heure ou plus pour lire tout un livre, donc... Sois reconnaissant que je n'ai pas fait ça, mais... Non, c'est un long passage, mais on veut prendre un petit peu un plus grand voix à ce passage parce qu'il y a des thèmes qui relient tous ces épisodes plus petits là-dedans. Donc, je veux commencer avec ça. Et je vais revenir à ça plus tard, mais c'est l'idée centrale et le message clé que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas évident immédiatement, mais j'espère qu'après avoir examiné ce passage de Marc, cela vous apparaîtrait plus clair. Alors, c'est Jésus, en tant que Dieu, définit et incarne le vrai sabbat. Les disciples de Jésus sont appelés à participer au vrai sabbat à travers la restauration par lui de notre espace, de notre temps et de notre esprit. OK? Donc, souvenez ça. Donc, en premier, l'évangile de Marc. Au cours des derniers mois, nous avons passé beaucoup de temps dans l'évangile de Marc, mais incluant ce passage-là. Mais pour rappel, nous savons que Marc est la plus ancienne des évangiles rédigés vers l'an 60 par Jean-Marc comme mémoire de l'apôtre Pierre. Marc s'intéresse principalement à l'identité de Jésus et à la manière d'être son disciple. Le passage spécifique que nous avons lu juste maintenant, c'est un récit conflictuel en raison des affrontements répétés avec les chefs religieux juifs dans chaque épisode. Mais pour comprendre Marc dans ce passage, nous devons comprendre les chiasmes. Les chiasmes sont un type de littérature juive qui attire l'attention du lecteur sur des points clés du texte grâce à ses répétitions et à sa structure. Ces éléments sont extrêmement courants dans la littérature biblique et les Juifs de l'Antiquité les reconnaîtraient immédiatement. Mais ils ont devenu difficiles pour nous, des lecteurs modernes, par manque de sensibilisation à ces styles. Dans un exemple très simple que j'ai sur l'écran, il y a un dans le passage, Marc 2, 27, qui utilise une structure A, B, B, A. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est juste un très petit, mais ça, c'est un exemple. Mais on trouve aussi des exemples plus complexes dans la Bible, comme dans les psaumes ou encore dans les livres en entier, comme Genèse ou Lévitique. Ces livres comportent des épisodes parallèles qui encadrent un passage central, lequel constitue la clé pour interpréter le reste de l'ouvrage. Souvent, le message central d'un chiasme est moins linéaire et logique, mais plutôt dense et complexe, ce qui nécessite une relecture attentive et une réflexion approfondie pour saisir les multiples liens, les idées un peu mystérieuses. C'est vraiment, on doit chercher ou chasser un trésor dans le texte. C'est quelque chose qui est mis là avec intention pour que nous découvrions le message central que l'auteur voulait communiquer à les lecteurs. Donc, une petite histoire. Quand Zosha et moi, on sortait ensemble en Colombie-Britannique, on était partis des écoles bibliques là-bas avec Jeunesse en Mission. Et on a appris de ces chiasmes pour la première fois et on a trouvé que c'était tellement cool de voir les écritures d'une manière complètement nouvelle parce que les passages qui semblaient un peu étranges ou pas très clairs à nous en premier, on découvrait qu'il y avait une structure très intentionnelle que l'auteur a mis là avec des petits trésors qu'on devrait chercher. Et j'ai acheté Zosha un vêtement ici qui montre un peu. C'est un peu vieille maintenant, mais vous pouvez voir. C'est comme I Heart Chiasms, Heart I. Donc voilà, c'est un autre chiasme ici. Donc il y a cette structure, ça pourrait être A, B, C, B, A. Vous voyez? OK. Donc, ça, c'est une petite anecdote pour vous. Mais là, c'est... Oh, je voulais aussi dire, chiasme, ça vient du grec. Le lettre grecque pour X, c'est chi, C-H-I. Et donc, pour ça, on voit que le X, c'est comme ça. Donc, tout le passage, c'est comme structuré comme un X pour comme... trouver le milieu, juste ça c'est le trésor au milieu qui explique tout le passage. Donc ici on a Marc 2 à 3, nous avons un épisode sur la guérison, un autre sur le repas, un sur le jeûne, un autre sur le repas et un dernier épisode sur la guérison. Donc le chiasme de notre passage présente une structure A, B, C, B, A, dans laquelle Marc place un passage clé dans le récit qui explique le message central du texte. Donc, selon vous, quel épisode constitue la clé interprétative du chiasme de Marc? Oh, ben, c'est là. OK, mais c'est au milieu. Voilà. C'est, ouais. Non, ça, c'est toujours... c'est toujours au milieu. Au lieu de X marks the spot, Mark X le spot. Vous comprenez? Non, c'est une blague, mais oubliez ça. OK. Donc, dans ce passage, nous aider à interpréter le message central de ce chiasme, le passage de jeûne comporte quatre parties qui relient de manière intentionnelle les cinq épisodes de Marc 2.1 à 3.6. Et ça montre l'idée principale que Marc veut nous communiquer. Donc, un, Jésus est interrogé. Deux, Jésus révèle son identité. Trois, Jésus montre à ses disciples comment vivre. Et quatre, Jésus raconte une parabole sur le royaume. Donc, examinons tout ça de plus près. OK. Donc, en premier, le fait que Jésus soit interrogé est un thème récurrent dans chaque épisode de ce chiasme. Il est interrogé par les scribes et les pharisiens parce qu'il pardonne les péchés, parce qu'il mange avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, parce que ses disciples ne jeûnent pas et parce que ses disciples cueillent du blé le jour du sabbat. Mais il est aussi intéressant de noter que dans le dernier épisode, c'est Jésus qui interroge les pharisiens pour savoir s'il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Donc, alors pour ce schéma étrange. Cette structure met en évidence ce que de nombreux spécialistes ont reconnu dans ce chiasme, un conflit croissant entre Jésus et les chefs religieux. À mon avis, ce conflit portait sur l'autorité de Jésus à interpréter la loi. Alors que les scribes et les pharisiens interrogeaient Jésus, en se fondant sur des traditions qui allaient au-delà des prescriptions de la loi de Moïse, Jésus révèle l'intention de la loi avec l'autorité de celui qui l'a établie. Saint Athanase, un père de l'Église du IVe siècle, a écrit que Jésus leur a expliqué ce que la loi avait pour but, car il parlait en tant que celui qui a établi les lois concernant le sabbat. Ce faisant, Jésus montre comment la loi avait pour but de libérer le peuple de Dieu. Par le pardon, la guérison, en rétablissant les pécheurs dans la communion et les inviter à festoyer en présence de Dieu répondre à nos besoins physiques. Les traditions rigides des scribes et des pharisiens empêchaient en réalité le peuple de Dieu d'accéder à la bénédiction que la loi était censée apporter, ajoutant des fardeaux comme faisaient les pharaons d'Égypte. Cela explique pourquoi Jésus était si en colère contre leur cœur endurci et leur refus de célébrer cette restauration. Le deuxième thème mis en évidence dans le passage clé du chiasme est l'identité de Jésus. Dans chaque épisode, on voit Jésus accomplir des actes ou parler de lui-même d'une manière qui révèle qui il est. Cela inclut des miracles de guérison, le pardon des péchés, la connaissance des cœurs et le fait qu'il se présente comme l'époux et le fils de l'homme. Ces deux titres qui sont tirés de l'Ancien Testament. Alors, que veut dire Marc ici? Tout cela indique en fait que Jésus est divin, parce que toutes ces choses sont quelque chose que seulement Dieu peut faire ou des titres pour Dieu seul. Le but de Marc en mettant en avant la divinité de Jésus semble être double. Premièrement, Marc démontre l'autorité de Jésus pour interpréter correctement la loi, puisqu'il est un avec Dieu et qu'il est l'auteur de la loi elle-même. Mais deuxièmement, Jésus, en tant qu'époux et le Fils de l'homme, incarne et réalise la restauration de l'humanité voulue par la loi à travers la guérison, le pardon, les festins et le rétablissement des pécheurs dans la communion. La présence de Dieu sur terre en Christ révèle le vrai sabbat. C'est pourquoi Jésus dit que ses disciples ne jeûnent pas tant qu'il est avec eux. Car en présence de Christ, tant dans la chair que dans la vie à venir, nous faisons l'expérience de l'ère perpétuelle du festin eschatologique, c'est-à-dire notre repos sabbatique final. Ça, c'est vraiment cool. L'aspect suivant du passage clé du chiasme de Marc est l'enseignement que Jésus donne à ses disciples sur la manière de vivre. Nous voyons ici que chaque épisode du chiasme montre le Christ présentant un nouveau mode de vie à ses disciples qui sont appelés à imiter. Guérir et pardonner, réintégrer les pécheurs dans la communion, festoyer et jeûner, et nourrir ceux qui ont faim. Alors, c'est quoi qui relie ces différentes pratiques que Jésus nous montre? À mon avis, Jésus incarne le vrai sang du sabbat, qui est la restauration complète de l'humanité. Cette restauration est révélée de manière limitée lors de la première venue de Jésus et sera révélée pleinement lors de sa seconde venue. Il semble clair que Marc veut montrer aux disciples de Jésus comment incarner ce vrai sabbat dans leur vie. Ils sont appelés à apporter dans leur relation le même guérison, le même pardon, communion, festin que Jésus a fait. Mais contrairement au Christ incarné, notre ministère s'inscrit encore dans les rites du jeûne et du festin de l'époque actuelle. C'est pourquoi Jésus dit que ses disciples jeûneront pendant qu'il sera enlevé. Car dans cette vie présente, nous vivons à la fois dans et pour le vrai sabbat. Mais c'est jusqu'à ce que le Christ revienne et que nous entrions dans le repos sabbatique définitif avec lui pour toujours. Tel est le mystère du royaume qui est à la fois déjà là et pas encore. Pour mettre en lumière ce mystère, Jésus nous propose un parabole sur le royaume de Dieu dans ce passage clé du chiasme. Il s'agit de la parabole des vieux vêtements et du nouveau vin. Cette parabole souligne un thème récurrent dans chaque épisode qui semble caché à première vue. Est-ce que quelqu'un peut voir un thème entre ces cinq? Peut-être c'est difficile à voir. Moi, je trouve que ces cinq idées, la parabole des vieux vêtements et du vin nouveau, mettent en lumière la restauration extérieure et intérieure, ou extérieure et physique, ainsi que la restauration intérieure et spirituelle. Car les vêtements symbolisent l'extérieur, mais le vin nouveau, c'est ce qui... Il y a des pères de l'Église qui écrivent de la vin qui fait heureux notre cœur. Donc, c'est les deux choses qui arrivent à la même temps. Les différents épisodes de ce qui soulignent que Jésus guérit à la fois le corps physique extérieur et l'état spirituel intérieur des personnes qui l'entourent. Il guérit à la fois la faiblesse de notre chair et celle de notre cœur. Cette parabole souligne également la nécessité pour les disciples de Jésus d'avoir un cœur de chair et non de pierre, capable de recevoir la vie nouvelle de l'Esprit. Le vin nouveau se dilate dans les outres à mesure qu'il continue à fermenter, provoquant l'éclatement des vieilles outres qui sont trop rigides. De la même manière, nous devons être prêts à recevoir la vie vivante et active de l'Esprit avec l'obéissance du paralytique ou de l'homme avec le mince desséché qui ont participé à la guérison que Christ leur a apportée. Cela contraste avec les pharisiens, dont les traditions rigides et les cœurs endurcis les empêchaient de voir et de partager la vie de l'Esprit. Enfin, la restauration intérieure et extérieure de cette parabole renvoie à l'accomplissement final de notre résurrection, où Dieu nous restaurera complètement tant de notre nature physique que spirituelle. C'est là l'espérance du vrai sabbat que Marc met en avant tout au long de son chiasme. OK, bon, nous avons exploré de nombreux points dans ce passage, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Revenons à l'idée centrale avec laquelle nous avons commencé. Dans ce chiasme, nous voyons que Marc veut mettre l'accent sur la divinité de Jésus. Pourquoi? Car étant un avec Dieu, Jésus, comme l'époux, réalise le vrai sabbat qui était préfiguré par la loi et l'Ancien Testament. C'est important pour Marc car cela concerne directement la manière dont les disciples de Jésus doivent vivre. Jésus invite ses disciples à participer avec lui au vrai sabbat à travers son ministère de restauration dans trois domaines clés: l'espace, le temps et l'esprit. Restauration de l'espace, c'est la guérison de notre monde physique qui nous entoure. Cela inclut la guérison de notre corps, comme a montré les histoires du paralytique ou l'homme avec la main desséchée. Ou bien nourrir ceux qui ont faim, comme Jésus a dit à propos de l'histoire de David dans le temple qui mangeait le pain. Ou ça peut être juste la résurrection physique impliquée dans la parabole que Jésus a dit. Le temps est restauré par le Christ de plusieurs manières. Jésus invite ses disciples à incarner son ministère de restauration comme une participation mystique au repos sabbatique final, où nous sommes en présence de Dieu et où tout est comme il se doit. Mais le jeûne symbolise la préparation et l'attente de l'épouse pour son union avec l'époux et le sabbat ultime. Ensemble, ils forment un rite de jeûne et de festin qui nous aide à vivre le mystère du royaume de Dieu dans notre vie quotidienne. Tous deux nous orientent vers la fin de temps et le repos du sabbat ultime où nous serons avec le Christ pour toujours. Puis enfin, le Christ restaure aussi nos esprits. Il invite ses disciples à ouvrir leur cœur pour recevoir le vin nouveau et la vie nouvelle de l'Esprit Saint. Cela nous appelle à passer des rituels rigides des pharisiens à l'obéissance participative des blessés, des malades et des pécheurs qui ont dit oui à Jésus. Passons maintenant à notre dernier point. Comment mettre ces principes en pratique dans notre vie? Pour ma part, je trouve que pratiquer un rite régulier de sabbat au cours de ma semaine m'aide à participer à ces mystères du royaume. Cela peut être très difficile alors que Zosha et moi, nous, tous les deux, nous travaillons ou nous étudions à temps plein. Mais quand nous le faisons, c'est une vraie bénédiction pour nous. Prendre une journée de repos sacré me rappelle de méditer sur la restauration du Christ et le vrai sabbat que je suis censé incarner dans ma vie quotidienne et que je suis promis dans la vie éternelle. On pourrait se demander, pourquoi ne pas exercer ce ministère de restauration chaque jour? N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Et je dis comme oui, mais aussi, je ne suis pas parfait comme Jésus. Et je n'ai pas trouvé que ce soit la recette de succès d'essayer tous les jours d'être dans cette vie complètement renouvelée. Je trouve qu'un jour par semaine, faire le repos, le sabbat, c'est comme une séance d'entraînement hebdomadaire. C'est un objectif réaliste où l'intentionnalité et la concentration sur le sabbat m'aident à me renforcer pour le reste de ma semaine. L'autre avantage d'une routine hebdomadaire du sabbat est qu'elle transforme chaque semaine en un microcosme de l'époque où nous vivons. Notre semaine ordinaire est à l'image de notre vie ici-bas, passer à jeûner, à prier et à attendre notre repos éternel, alors que le jour du sabbat est à l'image de notre vie dans l'ère à venir, une vie de repos et de communion avec le Seigneur. Je trouve que c'est une manière très simple, mais aussi très puissante, de centrer chaque jour et chaque semaine sur Dieu et de les aligner sur son temps sacré. Cela pourrait également vous aider à vivre le mystère du royaume de Dieu au sein de votre routine hebdomadaire. J'ai découvert que ce rite hebdomadaire m'aide dans ma vie de prière et de mon engagement envers le monde aussi. Les jours ordinaires de ma semaine sont ancrés par des prières demandant à Dieu pour ce dont j'ai besoin et apporter guérison et miséricorde dans le monde brisé que nous habitons. Cela m'aide à passer d'une mentalité de manque et de frustration face à une réalité qui n'est pas telle qu'elle devrait être, à une attitude d'espoir et de participation à la restauration que Dieu opère dans ce monde. Quand, au jour du sabbat, c'est un moment où je me sens particulièrement reconnaissant pour les bénédictions, le repos, les bonnes œuvres que Dieu m'a accordées. C'est un jour de communion, d'adoration et de reconnaissance. Parfois, Zosha et moi aimons aussi inviter des gens à dîner le jour du sabbat pour partager un festin et mettre en pratique cette communion et cette hospitalité que le Christ nous a montrée. J'ai constaté que ces pratiques simples ou ces manières de prier ont peu à peu transformé ma façon de voir l'espace, le temps et mon esprit. Cela peut se dérouler différemment pour vous, mais vous pouvez être créative et adapter ce genre de pratique à vos propres besoins et à votre routine pour inscrire votre prière et votre engagement dans la vision sacrée du sabbat que le Christ nous montre. J'espère et je prie que vous puissiez le faire aussi. Permettez-moi de terminer avec une courte prière. Dieu de gloire, merci. Merci pour ce temps qu'on peut être ensemble et célébrer, adorer, te adorer. Et merci pour votre parole qui est juste remplie de trésors et de révélations qu'on peut juste... c'est un vrai festin spirituel qu'on peut se célébrer. Et j'espère et je prie que tout le monde ici, on peut recevoir dans notre cœur ce que tu veux nous montrer dans ce passage. Dieu est maître du sabbat. Montre-nous comment entrer dans le vrai sabbat dans notre vie, de habiter dans... ministère de restauration de Christ chaque jour, chaque semaine, de ancrer notre vie de prière, notre engagement avec le monde dans le rédemption de notre espace, de notre temps et de notre esprit aussi. Merci pour ce jour et juste bénis tout le monde ici dans le nom sacré de Jésus. Amen. Merci beaucoup.